Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode donc avec Christian Clos, qui est explorateur depuis plus de 20 ans et a mené de nombreuses expéditions donc aux quatre coins du monde, tout climat confondu. Il a notamment effectué donc de nombreuses expéditions en Patagonie et en 2006, il effectue donc la première traversée de la zone centrale de la cordillère Darwin au Chili, jusqu'alors inexplorée. Donc j'ai connu Christian lorsqu'il a écrit le livre Au cœur des extrêmes qui relate ses expéditions donc adaptation 4x30 jours en milieu climatique donc extrême qui lui permettent de comprendre l'adaptation humaine en état de crise. Donc comment s'adapte-t-on dans un désert à 56 degrés ? Dans une forêt tropicale avec 100% d'humidité, dans des zones à moins 60. Ces travaux sont menés avec les équipes de son institut de recherche, Human Adaptation Institute, seul centre de recherche qui produit des résultats in situ qu'en situation réelle. Il est enfin membre donc depuis 2005 de la Société des explorateurs français et il en est le vice-président depuis 2010. Christian, comment ça va ?
Bonjour, ça va ? Voilà, tout est dit. Ou presque. Non.
Aujourd'hui, on va spécifiquement aborder le thème de la peur. Peur qui, dans le cas de Christian, nous pousse à aller comprendre des choses. Donc, je commence toujours mes interviews par la découverte de l'enfance de mes invités. Et la tienne est intéressante puisque déjà jeune, tu voulais être explorateur, mais on disait que c'était pas possible, qu'il fallait que tu choisisses un vrai métier. Voilà. Donc, raconte à nos auditeurs comment tout a commencé.
Oui, bon, moi j'ai une enfance qui est qu'on peut considérer comme assez facile, hein, dans un certain sens. Moi, je vis en Suisse, d'abord dans un petit village jusqu'à 11 ans, qui est dans la forêt quasiment. Hein. Moi, je sur le pas de ma porte, je sors dans la forêt quasiment. Puis après, on va déménager avec mes parents, évidemment. Je dois les suivre parce que j'ai 11 ans. Donc, on déménage dans un autre endroit, mais toujours quelque part proche de la forêt, de la nature, avec des lacs et tout. Donc, en fait, la nature est clairement liée à mon enfance. Je passe mon temps dans la nature quand je suis jeune. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà fondamental dans la construction d'une volonté. Parce qu'évidemment, on n'a pas le même rapport aux choses, à la Terre, à notre planète, quand on a vécu dans une rue bétonnée, que quand on a vécu avec une forêt comme cour de jardin. Donc, j'ai cette chance énorme d'avoir rencontré très très tôt la nature et d'avoir aimé profondément cette nature. Parce que il y a plein de gens qui vivent dans la nature qui n'ont pas forcément un amour démesuré pour la nature. Deuxième point, effectivement, c'est une caractéristique. On pourra toujours débattre de l'inné et de l'acquis, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose en moi qui me pousse à ne pas accepter la simplicité. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce que je fais, ce que je vois, ce que j'entends. Je supporte pas de ne pas comprendre quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai toujours voulu aller voir au-delà de ce que j'avais sous les yeux. Donc dès tout petit, dès que j'ai 4 ans. Je veux aller voir dans la forêt, je veux aller voir au-delà de la forêt, je veux aller voir derrière les arbres. En fait, ce qu'on voit pas m'intéresse plus que ce qu'on voit. Alors évidemment, je ne prononce pas à l'époque le mot explorateur, hein, moi c'est un mot qui n'existe pas, mais je vis en tant qu'enfant quelque part une forme d'exploration qui est évidemment pas une découverte nouvelle, mais qui est à mon échelle une volonté de toujours aller pousser la connaissance que j'ai et qui est ma base de compréhension. Et quand tout ça se construit, et c'est vrai que le système scolaire, à contrario, me freine un peu dans cette volonté-là, je suis pas très à l'aise avec le système scolaire, je m'y sens pas bien, j'ai l'impression qu'on nous dit tout ce qu'on sait, mais qu'on nous dit jamais qu'il y a des choses qu'on sait pas. C'est vrai que j'avais l'impression que finalement, on sait déjà tout sur tout. Donc, à quoi ça sert de continuer de découvrir si on sait tout ? Et lors de et comme du coup ça me plaît pas, ça m'intéresse pas, je suis pas un grand fan des cours qu'on a et que je suis très sportif à côté aussi, donc je fais du sport beaucoup. Je me désintéresse un peu du fait scolaire pour passer le plus de temps possible dans la nature. Et donc au moment de l'orientation scolaire en Suisse comme en France, c'est un peu la même chose, hein. On doit, à un moment donné, on doit dire bon bah ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Et que je dis bah moi j'aimerais faire un métier explorateur parce que c'est un truc que j'ai entendu et tout. Bah évidemment le conseiller d'orientation scolaire me regarde avec des grands yeux sans trop savoir quoi me proposer et puis là je le vois plonger dans mes notes et il me propose deux métiers puisque je suis un sportif d'élite, prof de sport ou comme je cours vite policier quoi. Et ça s'arrête un peu là et évidemment ça va pas me convenir.
Oui, alors justement, comment ça a commencé? Donc, parce que tu as commencé par être comédien. Donc, à quel moment tu t'es dit, OK, je vais pas être explorateur, donc je vais finalement essayer de trouver un métier. Et là, tu te diriges vers le théâtre.
Non, bah c'est la résultante en fait de à la fois un désintéressement, une non appétence pour le système scolaire et cette évidence que selon ce que je pense à l'époque, que le métier d'explorateur n'en est pas un. Donc, je dois chercher un métier qui, d'une part, ne passera pas par les grands systèmes universitaires, puisque mes notes scolaires à l'époque ne le permettent pas forcément. Enfin, j'aurais pu, mais ça, je me voyais pas continuer dans un système scolaire qui me convenait pas. Et le fait qu'explorateur n'existait pas. Donc, je cherche un métier qui me permettra à la fois de m'épanouir, d'être dans une sorte de construction créatrice, parce que finalement, quand on creuse un petit peu, on constate que l'exploration, comme la haute science d'ailleurs, la science d'haute complexité, c'est d'abord des métiers très créatifs. Il faut imaginer, il faut créer un nouveau territoire à comprendre, et ça, c'est de l'imagination, c'est de la création, et finalement, les métiers d'art ne sont pas éloignés du tout des métiers de science. Mais ça, à l'époque, évidemment, c'est très conceptuel encore pour moi, mais je me rends compte que j'ai besoin de faire un métier dans lequel j'ai de la création. Et j'ai besoin d'un métier dans lequel je suis en groupe aussi, parce que j'aime la notion d'être en collectivité, d'être en équipe. C'est ce qui me manquait dans le sport, parce que moi, j'étais plutôt sportif décathlonien, où on est quand même assez solitaire, donc très rapidement, j'ai plutôt dirigé mes compétences terrain sur la montagne où on est déjà beaucoup plus en équipe et puis ensuite ce besoin d'être avec d'autres personnes. Et il se trouve que à 13-14 ans, j'avais découvert le théâtre de manière totalement fortuite hein, parce que en réalité n'étant pas scolaire, j'étais pas forcément très intéressé par le fait théâtral. Et simplement il y a des gens dans ma classe qui avaient proposé de faire du théâtre donc les profs ont proposé une activité théâtre par un petit groupe de théâtre qui était à l'époque dans ma région. Puis ils ont dit voilà, bah qui veut participer? Et là il y a des gens qui ont levé la main, dont la personne dont j'espérais être le petit copain de l'époque. Je me dis tiens, c'est une bonne manière de passer du temps avec elle, donc je lève la main aussi quoi. Mais sans avoir aucune appétence en fait pour le théâtre. C'est-à-dire je j'y vais parce que c'est un moyen de d'être avec les autres. Et ça, et par contre, ce sera ma deuxième révélation de ma courte vie à l'époque. La première, ça avait été clairement la forêt, les arbres, la nature et cette envie d'y être. Et puis, au travers du sport et tout ça. Et la deuxième, ça va être vraiment le théâtre. Cette notion d'un partage de quelques instants de mots qui sont pas les nôtres. Rarement, hein, ça peut l'être, mais c'est rarement le cas. Auprès d'un public et de devoir faire vivre un personnage, de devoir concevoir un personnage, de devoir chercher ce qu'est sa vie, ce qu'il représente pour la société, ce qu'il ressent, ce qu'il considère et de mettre tout ça dans un instant où on va le partager à un public qui va recevoir ça de manière encore différente de ce qu'on a voulu. Et en fait, c'est cet échange d'émotions et de partage avec un public qui va me transcender dans le théâtre. Et je vais adorer ça immédiatement. Dès la première fois que je me retrouve sur scène, je sens que c'est quelque chose que j'aime. Et donc, bah finalement, quand je suis amené à faire ce choix d'un métier et qui ne pourra pas être celui que j'avais imaginé ou en tout cas envie, bah assez naturellement, le théâtre s'impose. Et je vais faire les concours du Conservatoire national que je vais réussir et je vais rentrer au Conservatoire national d'art dramatique sans vraiment avoir compris ce qu'est le métier d'acteur, mais en tout cas avec cette envie de le prolonger. Je vais aussi créer des troupes. Donc ça va être quelque chose qui va être très important finalement dans le futur, parce que la notion de devoir de créer des équipes qu'il faut à la fois fonder, manager, rendre, donner à qui il faut donner les moyens pour faire le travail qu'on a prévu, à savoir monter des spectacles, les monter d'abord dans un territoire précis, puis ensuite les faire tourner dans le monde entier. Et ben finalement, ça, dès 16 ans, dès 16, 17 ans, je vais monter mes premières troupes. En même temps, parallèlement que je vais m'inscrire au conservatoire. Donc, je vais parallèlement suivre le conservatoire et mes propres troupes. J'en créerai trois au bout du compte. Et ça, finalement, paradoxalement, ça va être extrêmement fondateur dans mon métier d'explorateur et ensuite d'explorateur-chercheur. Donc voilà, je me retrouve à faire du théâtre. Je suis, là encore, le conservatoire me perturbe un peu parce que j'y trouve pas tout à fait ce que je suis allé chercher. Donc après, je vais aller chercher dans d'autres pays, dans d'autres lieux, d'autres compétences théâtrales, notamment tout ce qui est escrime, tout ce qui est jeu du corps. Parce que moi, le conservatoire que j'ai suivi, c'est un conservatoire qu'on peut considérer comme très brechtien. Donc, le principe de s'effacer derrière le texte. Alors que moi, je suis plus dans un théâtre qu'on pourrait considérer comme stanislavskien ou la méthode Acteur Studio, où on embrasse le texte, on embrasse le personnage et on devient le personnage, on le vit physiquement. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je vais aller chercher ailleurs. Et puis, très rapidement, je me rends compte qu'il me manque une dimension au théâtre dans ce côté très physique. C'est peut-être d'y amener une réalité de par exemple, sur un Shakespeare... on peut le jouer juste sur le texte, puis on peut le jouer comme Shakespeare l'a voulu, où les combats sont des vrais combats, où l'escrime se fait vraiment, où les gens prennent des coups, et où finalement le public est intégré à ça. Le théâtre shakespearien, à l'époque de Shakespeare, c'est un théâtre populaire, c'est un théâtre de masse, c'est pas du tout un théâtre d'élite. Et finalement, je vais me retrouver là-dedans, et je vais mélanger la cascade, le théâtre, les slapsticks de Buster Keaton et de personnages comme ça pour créer finalement mes propres spectacles. Et ça, je vais adorer ça. Ouais, c'est clair.
Mais donc, tu as créé tes troupes très jeunes, alors.
Oui, j'ai créé mes troupes très jeunes. J'ai créé ma première troupe, qui était une troupe de théâtre amateur avec les copains avec qui on avait fait le théâtre à l'école, qui s'appelait Octopus. Et on s'est mis... parce qu'en fait, quand le théâtre à l'école, à un moment donné, ça s'arrête, parce que l'école s'arrête. Et puis, on avait le choix de rejoindre, il y a un cabaret, ou alors des grosses pièces. Puis nous, on n'avait pas envie de ça, on voulait monter des vraies pièces. Et puis, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à faire, on va créer notre troupe, quoi. Et on a créé un petit groupe de théâtre, et c'était fabuleux, parce que on était très jeunes, tous et toutes, et il fallait qu'on apprenne à créer une équipe, un groupe, une association, avec tout ce que ça représente. Et donc, moi, je me suis retrouvé là-dedans avec un immense plaisir. Je me suis assez vite retrouvé le metteur en scène de l'équipe, parce que c'est vrai que j'avais envie que ça bouge, j'avais fait des grandes choses. Puis après, y a d'autres qui ont fait des choses aussi. Et puis ensuite, j'ai créé une deuxième troupe qui était plus dédiée au théâtre pour enfants, où déjà je voulais intégrer cette notion très physique, parce que je me réalisais, enfin, pour que les enfants soient passionnés, il faut leur apporter un truc qui bouge bien et tout ça. Donc j'avais déjà intégré ça. Puis après j'ai créé une troisième troupe où là on était plus sur le côté slapstick et vraiment mélange cascade et jeu. Et c'est vrai que ça a été très important pour moi de faire ça, parce que encore une fois en fait quand on voit des explorations, quand on voit des expéditions, quand on voit une pièce de théâtre, quand on voit des choses, n'importe quoi d'ailleurs, hein, on ne réalise jamais le travail qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui a permis d'amener cette équipe, ce système à faire ce résultat? Et souvent, on peut avoir une idée assez faussée, assez idéalisée, hein, des choses. Et en théâtre, on appelle ça le miroir aux alouettes. Hein, on croit tous qu'on va devenir la future star d'Hollywood et autres. Et personne ne se rend compte que y a quand même pas grand monde qui devient star d'Hollywood en claquant des doigts. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas le chemin habituel. D'habitude, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Et le fait de créer en plus des troupes, ça décuple ça, parce qu'il faut ajouter à son propre travail personnel celui de pouvoir accompagner les autres et faire en sorte que tout le monde puisse donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même. Et ça, tout ça, je le dis aujourd'hui, hein, c'était pas très conscient à l'époque, mais en fait, c'est ça qu'on s'est retrouvé à faire les uns les autres. Et c'est vrai que moi, comme je suis quand même quelqu'un d'assez moteur, j'ai jamais été passif dans ce que je fais. J'ai assez vite été le moteur de ces systèmes jusqu'à un certain point, hein, sans du tout enlever ce que chacun apportait. Et oui, évidemment, ça m'a appris un truc super important que je pense que j'avais pas du tout quand j'étais l'enfant qui se baladait dans la forêt et qui faisait les 400 coups. C'est la rigueur. La nécessité d'une rigueur très forte, et je pense que j'ai plus appris la rigueur avec le théâtre que ce que je l'ai ensuite appris avec la science. Science qui pourtant se veut rigoureuse, mais qui accepte trop souvent, ben voilà, on a juste ce qu'on peut pour arriver quand même à ce qu'on a besoin. Le théâtre, finalement, paradoxalement, on doit susciter une émotion chez des dizaines, voire des centaines de personnes assises, venues pour vous voir. Et qui sent immédiatement quand vous n'êtes pas à côté de la plaque, qui sent immédiatement que vous n'êtes pas juste, que vous n'êtes pas vrai, que vous n'allez pas au bout des choses. C'est direct le retour. Donc, plus que le cinéma que j'ai jamais voulu fréquenter personnellement, j'ai fait très peu de cinéma en tant qu'acteur et cascadeur. Alors bon, on peut dire c'est parce qu'ils m'ont pas appris, mais c'était quand même une vraie volonté. C'est que, bah, en fait, on peut pas être faux. On peut pas tricher en fait avec le théâtre. Et en fait, ce qui va m'apprendre la rigueur de la de du respect de ce qu'on apporte au public, aux gens, ce qui va m'apporter la volonté d'être toujours le meilleur, mais pas le meilleur pour dire ah je suis le plus fort du monde, mais pour apporter à ceux qui vont me voir ou me lire quelque chose qui va vraiment les toucher. Eh ben en fait, c'est une rigueur absolue. Et je vais apprendre la rigueur grâce au théâtre.
Alors, en même temps, on ne peut pas être faux et en même temps, on joue des rôles au théâtre. Alors, comment
Absolument.
ton identité a pu se construire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu justement de la peur ou des certaines croyances? Qu'est-ce qui...
Alors, la peur, elle est omniprésente en théâtre. Elle est omniprésente. Certains spectacles, je les ai joués plus de 1000 fois. Et objectivement, à la millième, j'étais toujours pas sûr de moi en entrant sur scène. Jamais. Parce qu'il y a systématiquement la peur de ne pas satisfaire les personnes qui sont venues vous voir. Il y a systématiquement la crainte de ne pas apporter tout ce que vous devez apporter au personnage, de ne pas rendre hommage au personnage que vous jouez. Parce qu'effectivement, on est un personnage, donc on est effacé derrière ce personnage jusqu'à un certain point. Puis à la fois, ce personnage ne peut exister que parce que vous lui donnez corps. Donc c'est une sorte de schizophrénie, effectivement, dans un certain sens, qui peut être perturbante jusqu'à un certain point, où on est à la fois soi-même, parce que c'est bien moi qui suis sur scène, et quelqu'un d'autre, parce que je présente quelqu'un d'autre au public. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir. Je suis pas allé, quand je disais que j'étais pas brechtien, mais plutôt stanislavskien, j'ai pas non plus été jusqu'aux méthodes Actors Studio, dont par exemple certains grands acteurs comme Robert De Niro et autres décrivent régulièrement, à savoir que avec le summum qui était Daniel Day-Lewis, qui disait ne pouvoir sortir d'un personnage qu'en créant le prochain, où en fait on devient tellement de personnages que bah, finalement on s'efface totalement derrière cet être. Et je pense que ça, c'est ça crée un danger, réellement. Ça crée un danger parce que quelle est notre identité par rapport à l'identité du personnage? Donc j'ai toujours essayé de rester quand même dans une distinction, mais là encore, c'est de la rigueur. La distinction du moment où on est sur scène, où on peut tout se permettre. On peut être un drogué, on peut être un junkie, on peut être un meurtrier, on peut être le pire des salauds, on peut être celui qui tue des femmes, on peut être celui qui viole, et parce que c'est un rôle. Mais quand on en sort, on n'est plus ce personnage. Et on est de nouveau une personne qui doit être hautement respectueuse des personnes autour de nous, qui ne peut évidemment pas faire tout ce qu'on ferait sur scène, parce que ce n'est pas la société, parce que, et heureusement. Donc il faut avoir
Oui, quand même.
cette compétence mais qui est difficile et qui s'apprend pas forcément immédiatement. Je pense que tout acteur, mais moi, encore, je pense que j'avais une chance. Je suis pas sûr que j'étais un très bon acteur. J'étais un meilleur metteur en scène qu'acteur. Tout acteur passe à un moment donné ou à un autre par ce doute de qui suis-je et comment suis-je par rapport aux êtres qui m'habitent quand je joue une pièce. Je pense qu'on peut pas être un très grand acteur. Et encore une fois, j'ai vraiment pas la prétention d'avoir été un grand acteur sans qu'à un moment donné on se fasse envahir par son personnage. Et c'est pas facile. Ça, j'en conviens tout à fait. Moi, encore une fois, là, je pense que ce qui m'a sans doute sorti de ce risque-là, c'est ce que je faisais en parallèle. La première chose en parallèle que je faisais, c'est que je faisais de la montagne et je continuais de pratiquer des sports nature à haute intensité, parachutisme, rafting, kayak, expédition dans le Grand Nord, traversée du Canada à pied, dans le Nord, enfin, toutes ces choses qui sont, par contre, où là, tricher ne marche pas non plus. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, quand on est sur des terrains extrêmes, quand on pratique des sports extrêmes, aujourd'hui, le parachutisme, il y a des systèmes d'ouverture, c'est quand même très bien fait, ça a été très étudié, mais rien qu'à l'époque, et je parle pas d'une époque si lointaine, il y a 30 ans, les parachutes, ils s'ouvraient, mais si on faisait pas vraiment gaffe à la manière de les plier, si on n'était pas ultra rigoureux, ça s'ouvrait moyennement bien, quoi. Et pourtant, c'était déjà sécurisé, bien sûr, mais, donc, en fait, on peut pas tricher non plus et la nature nous rappelle très très vite que si on se prend plus fort qu'elle, on va tomber et on tiendra pas le choc. Et donc finalement ça, c'est ce mélange là entre ce jeu de théâtre et ce jeu réel par rapport à la nature qui va m'équilibrer, qui va me permettre d'éviter de sombrer dans cette idée que parce que j'ai joué un surhomme sur scène, je suis un surhomme dans la vie ou vice versa. Et au contraire, si je joue une personne à déchéance qui est en dépression et qui n'y arrive pas, j'arrive à l'éviter. Mais c'est vrai que ça va me faire quand même passer par des tas d'étapes de construction des constructions nécessaires à l'époque pour ensuite ce que je vais faire sur le terrain. Je pense que réellement, et je sais que c'est des fois difficile à comprendre pour mes collègues explorateurs comme pour mes collègues comédiens ou comédiennes. Sincèrement, je crois que les deux se sont nourris totalement l'un de l'autre et que je n'aurais pas pu faire les expéditions que j'ai fait avec les premières mondiales dans des territoires très terriblement compliqués sans avoir fait du théâtre à une époque et sans avoir accepté ce que veut dire de cette remise en cause de ce que nous sommes en tant que personne face à quelque chose. J'aurais peut-être sombré en tant que comédien parce que je m'investissais à fond dans ce que je faisais et je dois dire que quand je parlais de Daniel Day-Lewis tout à l'heure, moi c'est un acteur qui m'a fasciné au plus haut point et je dois dire que je pense que si j'avais eu que le théâtre et pas le prisme ou le miroir des milieux extrêmes, j'aurais fait du Daniel Day-Lewis et je crois pas que ça rende les gens très très sereins. Bon, je suis pas serein quand même, mais.
Alors justement, on va y venir à ce moment de bascule. Donc, quel a été le moment où tu t'es dit bon, là cette fois, je me sens vraiment bien dans la nature et je veux en faire mon métier. Est-ce qu'il y a une forme de stagnation, d'ennui dans le métier de comédien ou de metteur en scène? Quel a été le moment, voilà, de
Non, bah, vraiment pas. En réalité, donc pendant plusieurs années, pendant, je vais vraiment être à cheval entre les deux. Je vais être à cheval entre le métier de comédien, cascadeur, metteur en scène, enfin le métier d'art du spectacle, on va dire, pour être plus large, et le métier qui n'est pas encore un métier à l'époque, parce que c'est pas ça qui me fait vivre, d'aventurier puis ensuite d'explorateur sur le terrain, sur le jeu des terrains extrêmes. Donc j'ai un métier qui me fait vivre, qui est celui des arts de la scène, et puis j'ai une passion qui est gourmande en argent, qui est celui du voyage et des expéditions. Et j'aime vraiment les deux. Pendant un temps, je pense que je peux faire les deux et que je peux m'épanouir complètement parce que alors j'ai cette chance. Mais qui encore une fois est un travail rigoureux, mais qui m'a apporté une chance, c'est celui d'être assez spécifique de ce que je fais sur scène. Ce mélange de cascade et de comédie qui m'apporte la capacité de pouvoir travailler quelques mois bien, vraiment intensément sur des spectacles, et puis de pouvoir partir le reste du temps sur le terrain. Donc et d'être sûr, quasiment sûr en tout cas, que quand je reviendrai du terrain, je retrouverai du travail. Ce qui est une chance énorme hein, quand on est comédien, parce que sinon on a plutôt tendance à toujours être à côté de son téléphone, prêt à réagir si jamais il y a une offre qui arrive, et ça c'est pas si courant. Donc j'ai cette chance là. Donc je fais assez bien hein, pendant 6 mois de ma vie du spectacle, et puis pendant 6 mois de ma vie du voyage. Et jusqu'à un certain point ça marche, mais très rapidement ça marche plus quand même. D'abord parce que finalement fonctionnant comme ça, je vais pas à fond ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que pendant que je joue au théâtre ou dans le spectacle de cascade, je prends pas assez de temps pour me former, pour devenir encore meilleur pour les autres spectacles que je vais faire. Et puis quand je suis sur le terrain, le reste du temps, j'y suis pas et puis j'améliore pas ma compétence non plus. Donc je stagne un peu dans ce que je fais. Et pourtant, j'ai cette ambition de faire de plus en plus. Et puis néanmoins pendant quelques années je vais faire ça. Et puis ce qui va être le basculement, c'est un double basculement en réalité qui est très clair. Et c'est à la fois un basculement dans ma vision du monde et à la fois un basculement dans la différenciation entre l'aventurier et l'explorateur que je vais devenir. Je m'explique, c'est que l'aventurier que j'étais, son job entre guillemets, c'est de faire des choses qui le poussent lui-même ou elle-même dans ses retranchements, qui vont. C'est une sorte de découverte plutôt auto-personnelle. C'est on se cherche dans l'aventure, on se dépasse, on tente des choses, et tout le monde peut l'être aventurier sans exception. Tout le monde a des éléments qui lui posent problème et dans lesquels il peut aller se confronter. L'explorateur, il a un autre rôle. Il a le rôle que d'essayer de comprendre et d'apporter des informations complémentaires aux autres, et pas seulement à lui-même ou à elle-même. Et c'est vraiment le voyage au Népal en 99 qui va faire ce basculement des deux. Parce que, en fait, en gros, moi, je cherche un sommet un peu plus prestigieux encore à faire. Enfin, c'est toujours pareil. On a fait un 8000, on va faire un deuxième. On a fait un 6000, on va faire un 7000 et ainsi de suite. Donc, je cherche le sommet qui va me tenter au Népal. Et puis, faisant des recherches sur le Népal avec mon ami de l'époque, on constate assez vite que, il y a un vrai problème d'information, dans le sens qu'on a énormément d'informations sur les trois vallées principales à l'époque qui sont visitées, à savoir la vallée du Khumbu qui va vers l'Everest, la vallée des Annapurna et la vallée du Mustang et autres. Donc des endroits où il y a du tourisme qui va. Puis sur le reste du Népal, notamment tout l'ouest du Népal, rien. Pas d'infos, pas de cartes, pas de données. On retrouve des vieilles cartes russes qui montrent quelques profils de lignes de terrain dans l'ouest, mais sans plus, on ne sait même pas si elles sont justes. Ça va s'avérer plutôt faux. Et en fait, on se dit à ce moment-là, on en avait un peu tous les deux marre de vivre en ville. Enfin, on ne vivait pas vraiment en ville, mais proche des villes. Et puis on avait besoin d'un changement. On s'est dit, mais en fait, on va plutôt d'aller faire un sommet, ce qu'on peut faire n'importe où dans le monde, on va partir faire le tour du Népal à pied. Pour aller voir ce qu'il y a dans l'Ouest. Et on y va, et ce basculement, il est là. C'est quand j'arrive vers ces populations-là. Quand j'arrive vers ces populations dans des vallées les plus reculées du Népal, et que très vite on constate, de par leurs gestes, de par leur fonctionnement, de par leur manière d'être vis-à-vis de nous, à savoir de nous voir arriver comme si on était des Martiens sur la place de la Concorde, d'être tellement surpris de nous voir, qu'ils n'ont jamais vu d'humains venir d'ailleurs, et encore moins d'humains blancs, alors que avec des habits bizarres, avec des fermetures éclairs, avec des tentes avec des maisons en tissu, enfin tout ça les intrigue beaucoup en fait. Alors non seulement c'est des intrigues, donc ils sont tout le temps avec nous, mais vraiment tout le temps, 24 heures sur 24, seconde après seconde, si on ferme la fermeture éclair de la tente pour la nuit, deux secondes plus tard, elle est réouverte et quelqu'un rentre dans la tente pour dormir avec nous. Si on va aux toilettes, quelqu'un vient avec nous aussi. Il n'y a pas une seconde où on est seul pendant ce temps qu'on va passer dans l'Ouest. Parce qu'ils sont intrigués, parce qu'ils savent même pas qui on est. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'arrête pas là. C'est qu'après, c'est eux, une fois qu'ils ont vu ce qu'on avait, qu'ils veulent absolument nous montrer ce qu'ils ont eux et comment ils vivent eux. Donc c'est un vrai échange qui va se créer. Et je réalise que dans ce monde qu'on dit connu, où tout le monde pense qu'on sait déjà tout sur tout, dans un pays où rentrent 40 000 touristes par an, on peut quand même trouver, qui fait 800 km sur 200, donc un tout petit pays, on peut trouver des populations qui n'ont aucune idée que le reste du monde existe. Et qui n'ont aucune idée que nous existons et que nous ne connaissons pas non plus. Et ça, c'est le basculement. Je me dis, mais en fait, il faut que je quitte cette formation, ce formatage, parce que c'est vraiment un formatage que j'ai reçu à l'école, que l'on sait, que l'on a compris, et que l'exploration, la découverte, la compréhension du plus loin n'est plus possible. Et donc, quand je reviens du Népal, j'ai pris deux décisions. La première, c'est que je ne pouvais plus continuer à faire deux métiers parallèlement, enfin deux actions parallèlement, parce que j'étais moyen dans les deux. et que je resterai moyen dans les deux tant que je ferai les deux, et que je vais devoir faire un choix. Et ce choix, sans avoir fait ces rencontres, je ne sais pas ce qu'il aurait été aujourd'hui, mais je sais que je dois faire un choix. Et le fait d'avoir rencontré ces populations me font dire que le choix doit être, lui, de mon enfance, de l'exploration, parce que je sais que j'apporterai plus au monde, et c'est peut-être très prétentieux à ce moment-là de penser ça, mais j'apporterai plus au monde et à la société en allant découvrir l'inconnu que en continuant de jouer des textes qui peuvent être joués par d'autres. Et donc, je décide que non seulement je vais arrêter le spectacle, mais qu'en plus, je ne serai plus un aventurier, mais que je deviendrai un explorateur.
Oui, non, c'est pas de la prétention, hein. Au contraire, c'est plutôt une volonté de transmettre de l'inspiration et d'aider, je pense. Peut-être qu'à ce moment-là...
Ouais, enfin, après, bien sûr. Non, mais enfin, dans l'idée qu'on va apporter au monde des nouvelles connaissances, il y a un côté forcément prétentieux. Mais c'est effectivement pas forcément une prétention négative. C'est l'idée qu'on va pouvoir le faire. Après,
non, mais après, c'est s'identifier à ça. C'est-à-dire que c'est j'ai trouvé. En fait, c'est ce que tu dis. C'est grâce aux rencontres, grâce à certains éléments que tu as pu apprendre sur le terrain qui ont fait que tu as ramené ces connaissances. Donc, c'est un tout.
Oui, tout explorateur reste un personnage ambigu. Et je ne nie pas cette face-là non plus. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette volonté profonde de faire connaître l'ailleurs, de faire connaître l'autre, de faire connaître des choses. Et puis, il y a aussi cette idéalisation, ce plaisir, que ce soit quand même nous qui le faisons. Et comme on est aujourd'hui dans des systèmes de financement qui sont extrêmement complexes, avec l'État qui s'est désengagé totalement du rôle de l'exploration et de la découverte et de la compréhension du monde, au profit souvent de d'autres types de sciences, hein, la science de l'atome, la science plus technologique et haute innovation, c'est des choix, hein, j'ai pas forcément à juger ça. Mais en tout cas, les États se sont désengagés de ces notions-là, de la compréhension terrain. On ne dépend que de financements qu'on doit aller chercher à bout de bras et qui demandent une forme de médiatisation, une haute médiatisation, qui est quasiment indispensable. On en parlera sûrement un peu, mais qui fait que, forcément, on est aussi des héros selon l'image de certaines personnes et on le cultive aussi parce qu'on en a besoin et après on retombe presque dans une autre schizophrénie. Moi je pense que ce qui m'a évité là encore hein, de devenir schizophrène là-dessus d'un jour parce que j'en connais beaucoup malheureusement c'est cette dichotomie que j'avais déjà dans le théâtre et les milieux extrêmes, c'est que j'ai toujours voulu faire très attention à ce que je suis, à ce que je représente par rapport à quelque chose, et le fait d'avoir appris à m'effacer derrière un texte aide. Mais il n'y a pas de miracle, on est quand même dans un système médiatique. Donc, quand je dis qu'il y a un côté prétentieux, il y en a forcément un. On peut pas se donner les moyens de vouloir être le meilleur dans un domaine et d'aller plus loin que les autres dans un domaine, même si c'est pour le bien public, sans avoir un aspect prétentieux. Et il faut l'assumer aussi.
D'accord. Bon, en tout cas, la croyance que on sait tout, là, est tombée donc le jour où tu as commencé donc les métiers d'exploration. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'une expérience que tu as eue donc au Rwanda. Je crois que tu étais très jeune quand tu es parti là-bas. Et quelle conception donc du pays et des gens que tu avais avant de partir, et quelles ont pu être les peurs que tu as affrontées là-bas?
Le Rwanda et comme d'autres pays ensuite où j'ai été, c'est des expériences. Mon travail, et la fonction de vouloir toucher, comprendre, m'a amené dans beaucoup de pays effectivement et auprès de beaucoup de populations et à des moments parfois pas toujours faciles pour ces populations. Alors c'est pas chose sur laquelle j'aime beaucoup m'étendre en général, mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a toutes ces expériences, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans des pays qui malheureusement ont vécu ou vivent aujourd'hui des situations humaines extrêmement complexes, ça a commencé à nourrir un questionnement qui va éclore vraiment seulement à partir de 2005, va commencer à nourrir en fait un questionnement sur le basculement, sur ce qui fait de nous des humains. Sur sur ce qui fait qu'un jour on bascule d'un état à un autre, sur ce que maintenant j'appelle la désorientation, à savoir ce moment où il se passe des choses qu'on ne comprend tellement plus qu'on peut agir totalement à l'opposé de ce qu'on est, parce que on est perdu dans la situation, parce qu'elle nous dépasse complètement, parce que on s'enferme sur nous-mêmes et si quelqu'un nous dit de faire quelque chose à ce moment-là, on va peut-être le faire alors que ça va être à l'encontre même de notre être personnel. Tous ces moments de basculement et de désorientation, c'est quelque chose qui m'ont questionné beaucoup en voyant des humains agir et réagir dans des situations complexes, des situations qui les dépassent. Et malheureusement, parfois, en allant très très loin dans l'aberration. Et ça va, alors évidemment, ça va en tant que individu, en tant que personne, me frapper, m'attrister, me questionner sur l'humain, sur est-ce que l'humain est bon, est-ce que l'humain est mauvais. En plus, c'est un débat qui malheureusement revient souvent sur le tapis. Hein. Quand on lit la presse et qu'on voit tout ce que l'humain est capable de faire à lui-même, aux autres animaux, à la nature, on se dit ouais, l'humain est foncièrement mauvais. Puis quand on voit en plus les humains avoir des actes terrifiants envers d'autres, comme je viens de le dire, on se dit encore plus waouh. Et donc je vais osciller d'un basculement entre pessimisme et pessimisme au début, parce que je mets un pessimisme profond, un pessimisme moyen. J'ai une période qui est pas simple où, en effet, un peu comme trop de voyageurs à l'époque et encore aujourd'hui, je l'entends trop souvent, cette impression qu'on a vécu des choses extraordinaires ailleurs et que le chez nous est négatif, nul, inintéressant. Et c'est vraiment quelque chose qui va être profond parce que c'est vrai qu'on vit parfois des événements avec les populations de l'ailleurs, extraordinaires ou terrifiantes parfois, mais je préfère parler de celles qui ont été extraordinaires, où on vit avec des peuples, on les voit, on se dit mais ils sont tellement meilleurs que nous, en oubliant parfois qu'on est aussi des passants. Et qu'on ne voit qu'une toute petite partie de leur réalité, et qu'on ne voit que quelques instants de réalité, et que cet homme que j'ai trouvé extraordinaire, si ça se trouve, sa femme le soir en rentrant, comme ici, on vit avec des gens qu'on trouve extraordinaires et qu'en fait ils tapent sur leur compagne ou que ils font des choses hallucinantes, mais que c'est pas mis à la vue des uns et des autres. Mais tout ça, je me questionne, j'oscille et tout ça, et ça va être et le basculement va vraiment être 2004, 2005, 2006. Alors paradoxalement, pas sur des drames humains profonds, heureusement peut-être, sur des expériences personnelles dans mes expéditions où je vois des personnes vivre des situations complexes et avoir des réactions complexes et me dire bon mais comment est-ce que je peux comprendre pourquoi une personne saine de corps et d'esprit, de haute qualité intellectuelle, enfin haute compétence intellectuelle et tout, peut soudainement basculer dans quelque chose d'une peur tellement profonde qu'il ne la maîtrise plus, dans des actes absolument aberrants et tout ça. Et ça, ça a été vraiment quelque chose que j'ai observé à la fois dans des terrains humains de basculement, comme dans mes premières expéditions. Donc ça a été vraiment le premier point. Je sais que je veux comprendre ça et que ça va devenir un besoin. Donc dès 2004, je commence à réfléchir, mais comment je peux scientifiquement, non plus aller simplement chercher de la glace, des roches ou des lichens qu'on va étudier ensuite pour faire de la science dure en géologie, glaciologie ou autre, mais comment est-ce que je peux mieux comprendre ce que l'humain vit quand il est soumis à des changements? Ça, c'est vraiment le premier point.
Alors justement, j'aimerais aborder donc la traversée de la cordillère de Darwin en 2006. Donc c'était dans cet objectif-là. Qu'est-ce que tu cherchais là?
Non, Darwin, c'était vraiment. Bien sûr, il y avait déjà cet objectif, mais bon, Darwin, la croisière de Darwin, c'est une partie de mon histoire qui est particulière aussi, je suis tombé amoureux d'un territoire au sens premier du terme. J'ai eu envie de connaître, de comprendre, d'aller au bout de ce territoire. La première fois que je l'ai vu, c'est la cordillère de Darwin. Donc, c'est une chaîne de montagnes qui se trouve à l'extrême sud des Amériques du Sud, sur l'île de la Terre de Feu, qui est bordée au sud par le canal de Beagle, au nord par le Señor Almirantazgo. Des endroits qu'on sait terrifiants en termes de marine, hein, où se mélangent les courants qui viennent d'Antarctique et du Pacifique, sur la ligne de partage des eaux du Pacifique et de l'Atlantique. Bref, chaîne de montagnes extrêmement complexe, la plupart du temps recouverte de nuages et de vents terrifiants. Et un jour, suite à une tempête qui a effacé tous les nuages, je vois cette chaîne de montagnes. C'est un coup de foudre. Je sais que je veux y aller. On est en 2002 à l'époque. Et j'ai pas de doute. Ensuite, en cherchant des informations, je constate que personne n'y a été dans la partie centrale. Il y a déjà eu des choses à certains endroits, mais pas dans la partie centrale. Donc, ça fit bien. Donc, je vais monter plusieurs expéditions. D'abord avec des amis, ensuite avec des scientifiques. Puis à chaque fois, on est bloqué, on n'arrive pas à rentrer dans cette partie centrale. Et finalement, j'y vais seul la dernière fois, les deux dernières fois d'ailleurs. Alors, il y a deux versions, hein, soit parce que plus personne ne veut partir avec moi dans cet endroit, soit parce que je... Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, je trouve de moins en moins de candidats pour partir dans un endroit où les conditions sont terrifiantes, à la fois de montagne et de météo. Et donc, mais moi, je veux aller au bout, donc je pars seul. La première fois que j'y vais seul, c'est un désastre. J'arrive même pas jusqu'aux montagnes. Et puis la deuxième fois, fin 2006, où j'y vais, je vais réussir en 2 mois et demi à faire cette expédition dans ces montagnes. Donc c'est à la fois un accomplissement personnel fort, parce que d'abord je l'ai fait pour moi et pour cet amour que j'ai eu des montagnes. C'est des expéditions qui m'ont beaucoup appris justement sur la condition humaine et sur ce que ça veut dire de faire face à des conditions qui sont particulièrement extrême et particulièrement incompréhensible, parce qu'elles le sont dans ces cas-là, et à la fois de nourrir un sentiment, une émotion par rapport à un territoire extrêmement fort, avec des alors ça je le nourrissais déjà avant, mais là ça a été vraiment poussé au summum. Et effectivement, toujours cette question, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe pour l'humain? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux être dans une souffrance énorme face à des conditions et que l'instant d'après, je suis capable quand même, malgré ma fatigue, malgré mon épuisement, malgré l'incapacité que je ressens par rapport au terrain, de quand même continuer, faire le pas de plus, essayer encore et me donner des nouveaux moyens et retomber et repartir quand même. Et de voir malheureusement que des fois, d'autres, ou moi dans d'autres cadres, on n'y arrive pas, on tombe et on n'arrive pas à repartir. Et quelle est la différence? Quelles sont les clés? Est-ce que c'est purement fortuit? Est-ce qu'il y a des mécanismes en jeu beaucoup plus profonds? Et comme j'ai observé ces mêmes conditions-là, ces mêmes difficultés chez des humains qui vivaient des vrais drames, parce qu'encore une fois, nous, on vit des drames, mais qu'on a choisi, hein. Partir en montagne, on sait qu'on aura des difficultés, ça fait partie du jeu. Partir en Cordillère de Darwin, ça va être très dur, je vais vivre des choses difficiles, mais je l'ai choisi. Quand on est un migrant qui a tout perdu et qui doit absolument quitter son territoire, quand on est une personne qui vient de tsunami, quand on a soudainement son monde qui bascule d'un instant à l'autre, c'est pas un choix. Et pourtant, on reste un humain face à une condition qui nous est imposée mais qu'on comprend pas forcément, qui nous dépasse physiquement, qui nous dépasse intellectuellement, qui nous dépasse émotionnellement, et sur lequel il va falloir reconstruire quelque chose pour parvenir à continuer l'histoire. Et c'est ce mécanisme-là qui va m'intéresser et sur lesquels je vais commencer à mener des études. Alors, c'est vrai que dans les Cordillères de Darwin, on commence les premières études. Et puis là, il va vraiment arriver le deuxième basculement hein, qui correspond dans toute cette période 2004-2006. C'est justement ce basculement d'arrêter de penser qu'il y a un ailleurs meilleur et un présent et un ici négatif. Et ça va venir par une de mes compagnes. Ma compagne à l'époque j'entame une relation et il se passe un truc tout simple, tout bête, tout simpliste. Moi, je revenais d'expédition, j'avais rencontré des gens extraordinaires, j'avais été dans la forêt tropicale, ça, génial et tout. Et puis j'arrive chez moi et puis elle voulait faire un gâteau et on n'avait pas de sucre. Et elle me dit, je vais aller frapper chez ton voisin pour prendre du sucre. Il me demandait du sucre. Il s'appelle comment? Et j'ai pas su lui répondre. Et là, je me dis, mais quand même, c'est incroyable. T'es capable de nommer et de nommer personnellement chaque personne de la tribu machin au fin fond d'une part là. Et t'es incapable de connaître le nom de ton voisin. Et ça, c'est vraiment, ça paraît tout bête, mais d'un instant à l'autre, je décide deux choses. D'abord que je dois complètement cesser de considérer l'ailleurs et de paramétrer les lieux et les gens, c'est-à-dire que partout il y a des gens extraordinaires, puis partout il y a des vrais connards. points. Partout, il y a des choses fabuleuses à voir et puis malheureusement des choses moins drôles. C'est comme ça. Et la question, c'est plutôt comment on les appréhende et comment on est par rapport à ces éléments. Et même à Paris, où je vais devoir vivre pendant quelques temps ensuite, si on accepte de lever un peu les yeux plutôt que de regarder par terre sur le bitume, on voit des sculptures, on voit des choses, on voit des gens, on voit des tas de choses. Je dois quitter le pessimisme pour devenir optimiste, parce que je réalise aussi que je pourrais rien construire avec le pessimisme, ça sert à rien que de considérer que l'endroit où je suis est pas intéressant, n'apporte rien à la société, donc je dois la construire par l'optimisme. Ça, c'est le premier point. Puis la deuxième chose, c'est que je dois comprendre de la même manière les populations du fin fond de l'Amazonie que les populations qui vivent à deux pas de chez moi dans mon pays. Et ça, ça passe par finalement un prisme unique et spécifique qui est vrai pour chaque humain sur cette planète, c'est que nous sommes des êtres avec un cerveau qu'on comprend pas, donc il faut comprendre ce cerveau et qui fonctionne à travers nos émotions et qu'on ne comprend pas non plus, et que c'est certain que où qu'on aille dans le monde, on voit les gens rire, les gens pleurer, les gens nourrir des aigreurs ou des envies, et donc on est tous humains avec un grand H majuscule, et qu'il n'y a pas de différence entre nous sur cet aspect des choses, et que malheureusement les différences ne se créent pas parce que nous sommes, mais parce qu'on nous a inculqué. Et donc il faut que je comprenne ce que nous sommes en tant qu'animal, en tant que fonction de base, mécanisme cognitif, plutôt qu'en tant qu'éducatif.
Oui, et justement pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voyagent, c'est une manière de se rassurer aussi. Le retour, en fait, qui est souvent très difficile pour tout le monde, et de partir avec la croyance que ça va être très dur le retour, puisque ce sera beaucoup moins excitant, beaucoup moins palpable. Ça, c'est une vraie croyance qui nous limite, justement, comme dit Christian, dans la découverte de nos espaces à la maison, qui peuvent être redécouverts, puisque ça change, en fait, ça change en permanence. Donc voilà, Christian le montre très bien. Oui, tu as dit.
Oui, non, mais tout à fait. Je crois que la plus belle chose que vous pouvez faire en tant que voyageur, c'est de voyager chez vous aussi, dans votre propre univers, et de re-regarder tout ce qui fait votre univers habituel sous des angles différents, sous des prismes différents, et de constater qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas à deux pas de chez nous.
Tout à fait, tout à fait. Alors, quel serait donc aujourd'hui pour toi le challenge actuel, le risque que tu souhaites prendre ?
Le risque que je souhaite prendre ?
Aujourd'hui, oui.
Bon, le challenge pour moi aujourd'hui, il est depuis 2006 et encore plus depuis 2014 quand j'ai créé l'Institut d'adaptation humaine, Human Adaptation Institute. C'est vraiment de vouloir chercher à comprendre quels sont les mécanismes en jeu quand on est dans ces moments de désorientation, d'incompréhension, de conditions extrêmes personnelles, pour pouvoir mieux comprendre et donc aider. Et puis surtout de pouvoir essayer de comprendre ce qui fait que depuis maintenant presque une centaine d'années, mais plus spécifiquement depuis 60 ans, alors que nous savons les choses, on est incapable d'agir selon ce qu'on sait, et que finalement on agit seulement selon des envies ou des besoins. Ce qui fait que malgré la compréhension qu'on a de certains grands problèmes actuels, on n'agit pas dessus. Et ça, je pense qu'il y a plein de raisons, et on commence à identifier des raisons qui peuvent être profondes, qui pousseraient l'humain à ne pas être capable d'agir et qu'on veut essayer de transformer. Donc pour ça, il faut faire beaucoup d'expéditions, beaucoup d'études, beaucoup de recherches, mélanger tout ça. Et donc je ne sais pas si on peut... Déjà, il y a continuer de faire mon travail sur le terrain, ça c'est nécessaire. Je ne sais pas si c'est un risque, mais c'est en tout cas à chaque fois qu'on va sur des terrains extrêmes, il y a des risques inhérents à ça. D'autant plus que maintenant, depuis pas mal d'années maintenant, j'emmène des groupes souvent de novices, donc des personnes qui ont beaucoup moins d'expérience et qui au contraire n'en ont même parfois pas du tout. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment des personnes entre guillemets lambda, normales, mais dans tout le sens noble du terme de ces deux mots, vont réagir quand elles sont confrontées à des conditions extrêmes, à des conditions nouvelles. Et donc, eh ben je réalise que c'est peut-être le risque le plus important que j'ai pris dans ma vie, parce que bon, en tant que j'emmène moi et des spécialistes, ben, chacun comprend et accepte le terme de ce que veut dire partir en expédition et les risques inhérents, et accepte la finitude possible de ce que ça représente, hein, puisque on a toujours le risque de vie ou de mort dans une expédition extrême. Emmener des novices dans ces conditions-là, c'est plus compliqué, parce que ça nous apprend, comme on le sait depuis longtemps dans l'institut, mais et que tout le monde sait, c'est que la parole ne donnera jamais le fait. Et donc, c'est pas parce qu'on dit il y a un danger que les gens vont le comprendre, et c'est seulement une fois qu'ils sont face à ce danger qu'ils vont commencer à le comprendre. Et donc, c'est trop tard souvent. Et donc, c'est un vrai risque pour moi que d'emmener des personnes comme ça dans ces conditions-là. Mais on doit passer par là aujourd'hui pour pouvoir mener nos études de manière assez poussée.
Eh bien, bon courage.
Ouais.
Alors,
ouais, c'est bien.
Donc, on revient à la peur que j'aimerais quand même aborder pour conclure. Donc, tu disais que tu avais peur, en fait, tout le temps, mais que c'est justement parce que tu as peur qu'il y a des choses à comprendre. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs lorsqu'ils sont face à leur peur ?
Bon, bah, la peur, on pourrait faire 18 émissions dessus, parce que c'est un sujet qui est extrêmement profond, extrêmement complexe, et qui est fabuleux, puisque c'est vraiment une des émotions que tout le monde ressent. Donc déjà, c'est passionnant. Et ça nous dit bien une chose, c'est que la peur, elle est très importante pour l'humain. De croire que la peur est négative ou de penser qu'on peut avoir peur de rien sont les deux choses les pires qu'on puisse faire en tant qu'humain. Parce que la peur, c'est plusieurs choses, mais c'est d'abord une alerte. Et oui, je suis encore en vie après bientôt maintenant 30 ans d'expédition, 28 ans d'expédition, parce que j'ai peur. Et ben, j'ai suffisamment souvent peur pour que, à chaque fois que j'ai peur, je me pose la question, qu'est-ce qui me fait peur? Et c'est là-dessus, il y a une clé fondamentale dans la notion de la peur. Je vais vous raconter une petite histoire toute bête, hein, mais quand j'étais enfant, j'avais peur de l'eau, très peur de l'eau. J'arrivais pas à mettre la tête sous l'eau. C'était quelque chose que je me sentais très mal à l'aise. Et donc, je faisais tout pour que ça n'arrive pas, au point que je voulais pas aller dans l'eau. Et je pensais que j'avais peur de l'eau. Donc, j'avais périmétré ma peur comme étant une peur de l'eau. Et donc, la meilleure manière de ne pas avoir peur, c'est de ne pas aller dans l'eau. Et c'est ce qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai peur des araignées, j'essaie de pas voir d'araignées. Si j'ai peur de ci ou ça, j'essaie de pas le voir. Et donc, on fuit, en fait, le système. Et ça, c'est très dangereux, parce que si un jour je me trouve dans l'eau malencontreusement, parce que par exemple le bateau sur lequel je suis en train de faire la traversée de la Manche coule, je vais être en panique totale, et donc je serai incapable de réagir à ce qui se passe. Donc c'est jamais une bonne solution. Toujours est-il que j'avais peur de l'eau. Alors un jour, j'ai un de mes copains qui me dit mais t'as peur de l'eau, alors donc tu prends jamais de douche, quoi. Et je lui dis, si, je prends des douches quand même, tout ça. Et il me dit, alors tu fais comment? Tu prends un parapluie, tu mets une armure, comment tu fais si t'as peur de l'eau, quoi? Et là, c'est un vrai déclic pour moi. C'est que je réalise que j'ai pas peur de l'eau, en fait. Et que c'est une aberration intellectuelle. Ce qui me fait peur, c'est pas l'eau, c'est simplement que, je vais l'apprendre plus tard, que quand je mets la tête sous l'eau, contrairement à beaucoup de monde, j'ai pas une fermeture des sinus. En fait, j'ai de l'eau qui me rentre par le nez, qui me coule dans la gorge, et ça me fait étouffer et je panique. Et comme je panique, je cherche pas à comprendre ce qui se passe, et donc simplement j'évite le problème en allant pas dans l'eau. En tout cas, pas en mettant pas la tête sous l'eau. Dès le moment où je comprends ça, évidemment, j'apprends à fonctionner puis à réagir par rapport à ça. Puis aujourd'hui, je fais de la plongée sous-marine, j'ai plus aucun souci avec l'eau et tout va bien. Ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà de l'imbécile là qui me dit tu prends pas de douche, non mais oh, excuse-moi Jean si tu m'entends, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pendant longtemps j'ai pensé que j'avais peur de quelque chose et c'était pas ça le problème. Et ça, c'est vraiment le lit de la peur, c'est que ça nous pousse à être tunnelisés. On ne regarde que l'élément en soi qui nous pose problème. On ne regarde pas la raison pour laquelle ça nous pose problème. Et du coup, non seulement on ne regarde pas la raison, mais en plus, on a tendance à se détourner de ça parce qu'on n'aime pas. Et donc, on n'apprend pas. Le fondamental avec la peur, c'est qu'on ne peut pas dépasser une peur sans apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance. C'est pas comme le stress où il suffit de résoudre le stress pour que ça s'arrête. La peur demeure même si l'élément qui nous fait peur disparaît. C'est-à-dire que si vous avez peur, je prends toujours la peur des araignées parce qu'elle est simpliste et à expliquer, très simple à expliquer, c'est que évidemment si vous avez peur des araignées, quand vous voyez une araignée, vos battements de cœur augmentent, vous êtes pas bien, vous avez envie de l'éviter, vous partez. Quand l'araignée disparaît, vous arrêtez d'avoir ces sensations, mais la peur demeure parce que la prochaine araignée, vous aurez toujours le même problème. Donc, vous n'avez pas résolu les choses. Donc, il faut vraiment se questionner avec nos peurs parce que ce sont des ressources extraordinaires. Quand on apprend à dépasser certaines peurs, on crée un mécanisme de dépassement qui va être capable d'être mis en œuvre beaucoup plus facilement face aux prochaines peurs. Donc, vraiment, la clé de la peur, c'est de se confronter à ses peurs. Pas de manière stupide, si j'ai peur du vide, je me jette dans le vide, attention, mais de manière construite, pour se poser la question, quelle est la base de la peur? Est-ce que j'ai déjà été attaqué par une araignée? En tout cas, dans nos pays, pas souvent. Oui. Donc, quel est l'élément clé? Et ainsi de suite. Et de déconstruire petit à petit. Alors ça, la peur des araignées, elle est toujours un peu comique parce qu'en réalité, elle pose pas de grands problèmes aux gens. Mais si vous avez des problèmes avec ça, travaillez dessus. Vous pouvez même faire des cours là-dessus, ça marche très bien. Mais pour des peurs un peu plus profondes, des peurs plus complexes, typiquement là, si je reprends la peur de l'eau, il y a des gens qui osent pas aller dans l'eau. On peut pas rester avec ça parce que d'abord un jour, on peut se retrouver confronté à sa pire peur et on sera pas prêt. Et deuxième chose, encore une fois, réussir à dépasser une peur, c'est créer un mécanisme qui permettra d'être beaucoup plus à l'aise face aux prochaines peurs. Donc pour ça, il faut pas attendre d'être dans le moment le plus terrifiant de sa vie pour se dire, tiens, si j'apprenais à lutter contre mes peurs. C'est parce que là, on a autre chose à penser. On a la peur qui nous dépasse, qui a pris l'ensemble de notre conception cognitive, notre système cognitif, et il n'y a pas la place pour apprendre à lutter contre la peur. Donc faut le faire quand on va bien. Vraiment quand on va bien, c'est-à-dire que quand on est bien, quand on a l'aise dans sa vie, c'est là qu'il faut oser se mettre face à ses peurs et aller travailler dessus. Et pour ça, il faut le faire aussi avec des gens qui en ont confiance. Je reprends l'exemple de l'eau, si vous êtes au bord de la mer, que vous avez peur de l'eau et que vous décidez de courir dans l'eau, que tu as des rouleaux au bord du Pacifique ou de l'Atlantique, ça sera pas bon, vous allez vous faire prendre dans les rouleaux, vous serez pas bien. Si maintenant vous avez quelqu'un qui vous tient la main, en qui vous avez absolument confiance, qui marche un peu à côté de vous, et puis à un moment donné qui vous lâche la main mais qui reste à côté de vous et qui vous explique, qui vous raconte, qui vous montre comment on peut faire, et ainsi de suite, eh ben petit à petit, il y a quand même pas mal de chances que vous trouviez vos mécanismes, vos systèmes, et que grâce à la confiance créée par la relation que vous avez avec cette personne, je prends là un exemple très concret physique, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus mentales et beaucoup plus profondes. Si cette confiance existe, elle va pouvoir vous accompagner petit à petit pour voir que finalement vous êtes capable de faire quelque chose que vous pensiez impossible. Et cet instant-là, il est fabuleux. D'abord parce que vous gagnez une compétence, vous avez appris quelque chose de nouveau. Ensuite, parce que vous avez généré un système cognitif de compréhension de la fonction peur, et puis aussi parce que tout simplement vous êtes armé d'une nouvelle compétence, à savoir le moment où vous vous retrouvez dans cette situation, vous ne serez plus en blocage. Donc ça fait trois points extrêmement positifs qui font dire que c'est toujours intéressant et toujours performant que d'aller se confronter à ses peurs et de se faire accompagner si nécessaire pour ça.
Yes, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que moi c'est pareil, la première fois que j'ai plongé, j'ai eu très très peur. Je sais pas trop pourquoi vraiment, mais voilà, je me disais que j'allais pas réussir et que de toute façon du coup c'est pas pour moi. Voilà, mécanisme de défense, la fuite, et puis en fait, j'étais avec un très bon instructeur de plongée, donc merci Émir si tu écoutes, qui m'a vraiment aidé, qui m'a accompagné et en qui j'avais confiance tout simplement, qui m'a mise en confiance, et après j'ai découvert un monde merveilleux. Donc oui, merci Christian pour le partage. Alors dernière question, donc on arrive à la fin du podcast. Penses-tu que nous sommes illimités?
Alors, définis la notion d'illimité.
Qu'on est sans limite en fait, tant que notre esprit pense qu'on n'a pas de limite, on va pouvoir faire autant de projets ou de réalisations qu'on veut, ou de conditions d'humain en fait.
Alors non, je ne pense pas qu'on est limité. Je pense qu'on est limitée, ne serait-ce que par notre finitude du temps. Hein. A priori, aujourd'hui, on a quand même un temps sur Terre qui est assez spécifique, assez précis, en tout cas qui dépasse à ce jour pas beaucoup, je crois, 114 ans et demi, ce qui est la je crois que c'est la personne la plus vieille du monde, mais je mets pas mal à couper sur le chiffre, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et puis, pour la plupart des gens, pour la moyenne, en tout cas en France, de 77 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes. Donc on a cette finitude-là. Et rien que ça, c'est une prise de conscience qui n'est pas toujours facile, parce que ça veut dire qu'on sait qu'à un moment donné, on doit choisir ses projets, parce qu'on ne pourra pas mener tous les projets qu'on veut. Moi, si je fais la liste de tous les projets que j'aimerais mener dans ma vie, moi, il me faut 500 ans, quoi. C'est pas possible. Donc, je vais devoir faire des choix. Et je dirais que plus on avance dans la vie, plus on doit spécifier ses choix, parce que malheureusement, et ça, on peut faire tout ce qu'on veut là contre, le temps court contre nous. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, et ça fait partie d'une de nos limites. La deuxième limite qu'on a, c'est qu'on a quand même un corps qui a une forme, je dis bien une forme de fragilité. C'est-à-dire que contrairement à d'autres animaux, on peut pas vivre tout nu à moins 60, on peut pas vivre tout nu à plus 60. Il y a des conditions climatiques et systémiques qui ne sont pas faites pour nous. Qu'on arrive à détourner, à dépasser par notre compétence technique, parce qu'on construit des éléments qui permettent de vivre aujourd'hui au centre de l'Antarctique et d'y survivre même pendant l'hiver alors qu'il y fait moins 80, ou de vivre dans des déserts absolus et quand même de s'en sortir. Mais ce sont des conditions technologiques qui nous le permettent. C'est pas notre, je veux dire, je ne pense pas, mais je me trompe peut-être, et je serais ravi qu'on prouve le contraire, mais réfléchissez bien avant de le faire, qu'on pourrait vivre pendant un mois tout nu en Antarctique pendant l'hiver, par exemple, sans aucune structure. Bon, si quelqu'un veut me prouver le contraire, allez-y, je pense que vous avez intérêt à faire votre testament avant quand même, même si c'est... Voilà, donc, même s'il y a des expériences intéressantes. Donc, on a une limite physique claire. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que cette limite physique, elle nous paraît souvent beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est en vrai. Ça, c'est quelque chose qui est important, effectivement. C'est-à-dire que, sans doute, pour nous protéger, parce que justement, pour regarder sous le coude, on pourrait dire comme ça, le cerveau et l'ensemble de notre système physiologique nous donnent des informations de risque et de danger bien plus tôt que la réalité du risque de danger. Parce que, certainement, encore une fois, comme un moteur de voiture, vous avez la capacité de monter dans les tours, puis vous avez une zone rouge sur les cadrans des contours qui dit « Attention, si tu vas là, tu peux y aller, mais si tu restes trop longtemps, tu vas faire péter le système. » quoi. Et nous, c'est inconscient, c'est présent en nous, et donc, en effet, on a des limites physiques qui ne sont pas dues à notre compétence physiologique, mais à notre perception physiologique. Donc ça, on peut les dépasser, on peut apprendre à les dépasser, on peut apprendre à aller plus loin. Ça, c'est pour le côté physique. Donc, jusqu'à un certain point, on peut les dépasser. On sait que dans des conditions extrêmes, ce n'est pas la force physique qui va faire la différence, mais la compétence de projection qui va faire la différence. Et c'est pour ça que les gens très forts ne sont pas forcément les gens qui survivent dans des conditions de crise énormes. Parce que parfois même au contraire, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire fonctionner un système qui est très énergivore, ils sont peut-être les premiers parfois même à tomber. Hein. Alors là, il n'y a pas d'études suffisantes là-dessus, mais ce serait intéressant d'aller un peu plus loin là-dedans. Donc physiologiquement, on a quand même ses limites. Après, par contre, là où on se met aussi beaucoup, beaucoup de limites, et tu as parlé des fonctions limitantes et des croyances limitantes, c'est qu'on se met et on s'impose souvent parce que l'éducation, parce que le système, parce que la société nous a présenté un modèle tel qu'elle le concevait comme acceptable pour l'humain et femme et homme, et bien on se met soi-même des barrières qui ne sont plus là physiologiques mais qui sont vraiment psycho-cognitives. Et malheureusement là-dessus on le sait, particulièrement pour les femmes qui reçoivent dans la plupart des sociétés aujourd'hui, sinon dans toutes les sociétés, des réponses à ce qu'elles sont, plus négatives que positives, et où l'éducation est souvent basée sur des limites énormes qu'on leur propose. Et c'est très récent tout ça, de pouvoir comprendre ça pendant longtemps, en regardant les affirmations des médecins, des docteurs, hein, dans les années 1900, qui considéraient que l'université n'était pas faite pour les femmes parce que leur cerveau pouvait pas et que ça allait les rendre malades. Et ça a été confirmé assez vite d'ailleurs, parce que les premières femmes qui ont tenté l'université parfois étaient malades. Bon, ben les hommes aussi parfois étaient malades, mais sauf qu'on ne regardait pas ça. On disait, ah ben tiens, c'est les femmes qui sont malades. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on était tellement persuadé de ça qu'on persuadait les femmes de ces faits aussi. Comme les croyances sur les mathématiques, sur les compétences. Combien j'entends encore de gens me dire, les femmes sont orientées mieux que les hommes. Je veux dire, c'est absolument faux. Il y a aucune différence. Voilà. Donc, malheureusement, bah, dans beaucoup de cas, ça prisme la perception et sa confiance en soi. Ça prisme la capacité qu'on a de se dire je peux le faire quand même, alors que tout le monde me dit que je peux pas. C'est dur. C'est très dur d'aller à l'encontre de son propre système. Si l'ensemble de ce qui vous est proche, famille, école, amis, vous dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas pour toi », il faut un courage et il faut un dépassement de soi-même bien plus important que de se dépasser dans une condition extrême climatique ou physique. Parce que ça veut dire qu'il faut déconstruire une persuasion, qu'il faut, une fois qu'on a déconstruit, accepter d'aller à l'encontre des personnes qui nous sont chères, parfois, ou en qui on croit, en qui on a confiance, pour ensuite parvenir à faire la chose qui nous paraissait importante et montrer que c'est peut-être possible. Et si malheureusement, on n'y arrive pas du premier coup, on doit recommencer le processus parce que là, on aura en plus nous dire ah, « je te l'avais bien dit ». Et donc, c'est un processus que tout le monde vit peut-être, ou que beaucoup de monde vivent, mais les femmes particulièrement. Et que aujourd'hui, on a deux travaux à faire énormes. Tout d'abord, il faut que la société se transforme par rapport à ça et mette moins de barrières aux uns et aux autres et considère l'humain comme un possible et non pas comme un impossible. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est évidemment, il faut que... Mais ça change quand même, heureusement. Il faut que puisque l'éducation aujourd'hui est loin de ça, il faut que le système familial, le système des proches génère cette bienveillance et les parents et les proches, les univers autour de nous ont un travail énorme et c'est pas toujours simple parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'on fait ça parce que parfois, très souvent même, en tout cas pour les parents, on pense que c'est pour le bien de notre enfant que lui dire qu'il peut pas faire quelque chose, qu'il se mettra en danger. C'est pour lui éviter la désillusion de ne pas réussir quelque chose qui est important. C'est pour éviter qu'il se fasse mal. Un enfant qui tombe, qu'est-ce que je fais? Je le laisse tomber ou je l'empêche de tomber parce qu'il va se faire mal. Mais je sais que si je l'empêche de tomber, je vais lui créer une croyance comme quoi la chute est dangereuse et ainsi de suite. Donc, très compliqué et je jette pas du tout la pierre aux parents là-dessus parce que c'est l'équilibre est très complexe parce qu'évidemment on va pas non plus laisser son enfant se jeter du haut de la falaise d'être tard juste pour lui dire non mais ce serait embêtant mais essaye quand même si tu veux. Donc quelle est la limite? Il faut la trouver, mais ce qui est certain c'est que il semblerait quand même qu'il y ait un point qui fait la différence, qui est vraiment très spécifique et qui est pas si compliqué en tout cas si on est prêt à jouer ce jeu là pour des parents, pour des proches, pour des personnes qui s'occupent d'enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes, il y a une chose qui fait la différence. C'est de toujours dire, quoi qu'il arrive, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu fais, je te dis que c'est peut-être pas possible, ça, tout ça, ce sera très dur d'aller contre, mais quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Je t'aiderai si tu en as besoin. Même si ce que tu as fait, je suis pas du tout d'accord, il n'y a pas besoin de le dire, mais je serai là pour toi. Et cette persuasion que quoi que je fasse, j'aurai quand même ce retour possible, ce soutien possible, déjà est un premier moyen de casser pas mal de choses parce que même si on a créé plein de croyances limitantes volontairement ou la plupart du temps involontairement, au moins pour la personne qui va devoir dépasser quelque chose, elle sait qu'elle a quand même un backup. Et ce backup, c'est pas forcément un backup de financier, un backup technique ou autre, c'est un backup d'amour où, oui, je sais que si un jour je dois revenir, même en ayant tout échoué vers les personnes qui m'ont dit que je devais pas le faire, elles m'ouvriront quand même leurs bras et elles seront là pour moi. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez offrir à vos enfants, à vos proches, aux gens que vous soutenez, c'est de toujours quoi qu'il arrive et quoi qu'elles aient fait, être là pour elles sans leur dire « tu vois, je te l'avais bien dit ».
L'amour inconditionnel.
Oui.
Et justement, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper important ce que tu dis là de... Les gens qui nous mettent des croyances dans la tête, ça part toujours d'une bonne intention. Parce qu'ils projettent leur système à eux de protection, de tout simplement de réussite, de comment s'en sortir dans la vie, parce qu'ils ont reçu ce schéma eux-mêmes et donc ils pensent que c'est la bonne façon de le faire. Et ça, ça peut vachement nous soulager de se dire, c'est pas une mauvaise intention. Je continue d'aimer mon proche, même si, voilà, il met des bâtons dans les roues. Et ça nous donne, je trouve, encore plus de courage. Parce qu'on est, on n'est pas dans ce conflit, du coup, avec notre proche.
Oui, c'est, ça, enfin, c'est, en fait, le paradoxe des croyances limitantes, c'est que certaines, encore une fois, sont potentiellement nécessaires. Encore une fois,
Bien sûr.
Je crois que je peux voler et que je me jette de la falaise, a priori, ça ne marchera pas. Donc, on a besoin de certaines de ces croyances limitantes.
Tout à fait.
Et d'autres sont extrêmement délétères. Pour les éducateurs et pour les parents, et même pour les professeurs, même si je pense qu'eux devraient être mieux formés à ça, la part des choses est très difficile. Mais je crois que la clé, elle est vraiment dans, et moi, je sais que j'ai eu cette chance énorme, hein. Moi, j'ai eu, on dit toujours, toi, t'as de la chance, toi, t'as pas de chance et tout ça. Non, bah, finalement, souvent, la chance, on la crée quand même. Mais il y a quand même deux choses qui font la différence, qui est énorme. Deux choses qui sont vraiment de la chance, pour le coup, parce qu'on n'en est absolument pas responsable. C'est l'endroit où on est sur la planète. Alors ça, évidemment, naître en Suisse ou naître au fin fond du Zimbabwe, c'est pas pareil. En termes de compétences, de capacités et tout ça. Donc ça, c'est une pure chance et on doit en avoir conscience. Hein, et je dis ça parce que malheureusement, aujourd'hui, on dit que des gens n'ont pas le droit de rêver à ce qu'on a nous sous prétexte qu'ils ne sont pas nés chez nous. Bah non. Et nous, c'est qu'une chance qu'on soit là. On aurait pu naître ailleurs. On est né en France, on est né en Suisse. Les amis, ayez conscience de ça. Donc ça, c'est une pure chance. Et la deuxième chose que j'ai eue qui est énorme, c'est que j'ai eu des parents qui ont vraiment fonctionné comme ça. Je leur ai fait tout ce qu'on peut faire à des parents, objectivement, mais vraiment tout ce qu'on peut faire à des parents. Et ils ne m'ont jamais abandonné. Ils m'ont jamais lâché. Ils m'ont jamais fait sentir que je ne pouvais pas revenir. Et au contraire, donc, évidemment, pendant une grande partie de ma vie, je l'ai même pas réalisé. Quand j'étais ado, que j'étais jeune adulte, que je partais, que je faisais des expéditions, que je partais 6 mois sans leur donner la moindre nouvelle parce que j'étais dans des endroits extrêmes et compagnie. J'aurais pas pu réellement la plupart du temps, mais bon, néanmoins, on réalise pas toujours ce que ça peut faire à des parents. Et ben voilà, ils ont toujours été là. Et ce backup-là, ce backup émotionnel, est fondamental. Et oui, ça c'est une chance parce que c'est pas là encore, c'est pas nous qui le décidons, c'est les parents qu'on a qui le décident et qui souvent souffrent même énormément hein, parce que quand on voit son enfant qui part en live et qui fait n'importe quoi, c'est une souffrance pour les éducateurs et pour les parents qui sont très démunis et qui peuvent avoir cette tendance à vouloir nous mettre des limites parce que ils voient bien qu'on part dans la mauvaise direction, et en tout cas selon eux. Donc, non, voilà, je dirais la plus belle chose qu'on peut offrir à un humain, c'est un amour inconditionnel, pas dénué de critiques et de questionnements, mais inconditionnel.
Bah, super pour ce mot de la fin, Christian. Merci beaucoup à toi, c'était très inspirant.
Merci.
Et à bientôt.
Merci, à bientôt. Merci de m'avoir invité, bonne fin de journée.
Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.